Chermol, troisième partie, chapitre premier. À Lille, dans l'étroite rue du Bois Saint-Étienne, Lucie Thirache était venue se loger au second étage d'une maison très vieille. Elle avait à dessein choisi cette rue, sachant que les loyers y étaient moins chers et que le voisinage du théâtre, de la gare, des larges voies populeuses, lui devait abréger ses courses à la recherche de Miché et rendre plus aisée sa chasse aux louis. Souvent, l'hôte mâle du lit était un commis voyageur ou un employé de bureau. La nuit d'amour, payée d'avance régulièrement, s'achevait de bonne heure, et Lucie, insouciante de se créer une clientèle fixe, laissait partir l'homme de grand matin en lui accordant à peine un au revoir somnolent. Elle, aussitôt, se remettait à dormir, heureuse, vautrée en travers du lit, et c'était dans la vaste chambre aux rideaux fermés une soûlerie de sommeil. Vers 2 heures, elle ouvrait les yeux. Le sommeil disparaissant lui laissait aux membres une voluptueuse torpeur, comme une chaude envie de rester ainsi, toujours mollement couchée. Elle frottait ses paupières mi-closes, et sa rêverie mêlait aux souvenirs de la nuit les projets pour la journée commençante. Chaque fois, elle craignait d'être réveillée trop tôt. Une peur navrante la faisait courir à la fenêtre et ouvrir les rideaux. Puis, tout éjouie par l'inondation instantanée des rayons solaires, elle se couchait, impatiente de ressentir encore cette exquise torpeur. Elle aimait alors considérer sa chambre. En face, encadrant les fenêtres claires, le mur couvert d'un papier bleu dont elle examinait les dessins jaunes aux formes indécises, que l'humidité illustrait par endroits de courbes dentelées. Entre les fenêtres, une large commode à marbre gris, surmontée de bibelots divers. Elle parcourait tendrement des yeux l'acajou luisant de la toilette flamande et son miroir limpide soutenu par des coups de cygne. Tous ces objets lui appartenaient. Elle pourrait, en quittant cette chambre, les emporter tous. Et l'image du tapissier, donateur de ses meubles en paiement de faveurs répétées, venait hanter son esprit, souriante, obèse, épanouie. Lucie poursuivait l'examen du mobilier en une soupçonneuse défiance. Parfois, le contact d'une canne éraflait le bambou des chaises, ou bien la bougie en se fondant avait maculé la table d'une tache épaisse. Elle se levait en hâte et, dans une inquiétude chagrine, elle frottait les meubles endommagés longuement. Elle ne se lassait pas de ses nettoyages et s'attardait autour des meubles dans une fierté propriétaire. Puis, lorsque tout était redevenu luisant, elle observait à la fenêtre le va-et-vient de la voie publique. La rue du Bois Saint-Étienne était presque déserte. Jamais Lucie ne voyait passer une voiture, à peine quelques piétons pressés. La fille s'attristait de cette solitude. Le badigeon jaunâtre des maisons voisines, la peinture déteinte des contrevents, la dégoûtait encore, et elle se penchait, avide de vie et de mouvement, pour entendre gronder au loin le bruit des boulevards. Elle tâchait à regarder la rue des Suaires à sa gauche, où le défilé des passants serpentait. Mais, à l'angle des deux rues, l'enseigne d'une serrurerie, énorme clé de zinc fixée à la muraille, obstruait la vue. Elle coupait les passants, empêchait de voir. Et Lucie s'épandait en une rage imprécante lorsque la clé, barrant le spectacle d'une cohue, permettait à peine d'entrevoir les jupons secoués de 2 femmes s'injuriant ou les jambes traînantes et arquées d'un ivrogne conduit au poste. La fille s'exaspérait. Elle maudissait la clé, en lui reprochant son plaisir. Elle s'en prenait au serrurier, s'étonnant que la police tolérât une pareille obstruction. Elle rêvait apostropher cette canaille, lui faire enlever son enseigne de force. Et très vite, un bruit, le passage lointain d'une voiture ou le son ronflant d'un orgue, lui faisait perdre ses colères, la retenait, curieuse, tendant l'oreille, subitement calmée. Puis, sans quitter la fenêtre, Lucie oubliait la rue. Durant des heures, elle se perdait en un tourbillon de vision rapide, à peine consciente. Lentement, le soleil s'abaissait derrière la masse ombrante du grand théâtre, laissant le quartier solitaire dans l'indécise clarté du crépuscule. Alors seulement la fille revenait au souci des choses journalières. Elle jetait autour d'elle un dernier regard curieux. Les maisons s'effaçaient, assombries, profilant sur l'horizon grisâtre les arêtes vagues de leurs saillies. Des nuages lourds, attristants, tachaient le ciel, immobile. Pour échapper à cette vue, elle fermait la fenêtre, et dans la chambre enténébrée, allumait une lampe de verre bleu afin de préparer son unique repas. Le même toujours, cru, aigrelé. Une salade de laitue baignée de vinaigre. Jamais elle ne cuisinait un plat chaud, par une crainte d'empester sa chambre soigneusement parfumée en tout coin. Le repas fini, elle se levait, très sérieuse, avec le sentiment de commencer enfin la besogne du jour. À parfaire sa toilette, Lucie gravement employait un énorme soin. Devant son armoire à glace, c'était de continuels tournoiements sur un talon, sur l'autre, des contorsions du cou, penchées vers l'épaule, pour scruter la draperie habilement chiffonnée de la jupe. Elle trempait une serviette dans sa cuvette à dessin rose et se frottait le visage minutieusement dans les creux. Après s'être lavée, elle allumait une bougie auprès de la lampe, en face de la glace, pour enrouler la frisure de ses cheveux autour d'une épingle échauffée. La toilette s'achève. Le corsage fort tendu moule la taille amincie par le corset. Lucie se dresse, très droite, en sa robe collante, et elle jette un dernier coup d'œil à la glace. Cet examen met à ses lèvres un sourire satisfait. Vraiment, elle se trouve ainsi très attrayante. Ses cheveux tombent sur le front en frisure molle, laissent une raie blanche entre leur alignement et l'arc des sourcils. Les yeux, couleur de bronze, ont de chauds reflets. Avec du rouge, étendu à la patte de lièvre, elle donne à ses pommettes un éclat rutilant, et ses tempes étaient encadrées par le balancement rythmé des boucles d'oreilles, larges anneaux d'argent emmêlés aux touffes des cheveux. Elle admire orgueilleusement ses bras, sa poitrine élevée jusqu'au menton, ses mains enfermées en de hauts gants de couleur claire. Puis elle se retourne, se cambre, se veut examiner toutes et de tous les côtés, ravie de prévoir une chasse heureuse. Tel était le but avoué de ses coquetteries. Mais, au fond, Lucie vivait dans l'adoration absolue de son corps. Sur elle-même, elle avait reporté le besoin d'affection qui l'avait toujours tourmentée. Enfin, elle parfaisait l'harmonique symphonie des couleurs et des lignes en jetant sur ses épaules un cache-poussière, gris-perle, aux pans doublés de grenat. Sur sa tête, elle posait une toque, fixée par un voile blanc enlacé au cou. Et, la conscience gaie, Lucie descendait pour commencer la tâche quotidienne. Jamais elle ne quittait la sombre rue du Bois Saint-Étienne sans jeter à la clé un regard haineux. En entrant dans la rue des Suaires, elle embrassait d'un coup d'œil la double sente des trottoirs. Décochant une œillade, dès qu'elle apercevait, dominant le fouillis des vestes et des robes, la forme haute d'un chapeau. Mais cette rue, roulant un flot d'ouvriers et de filles, était vide le plus souvent de michets raccrochables. Rapidement, Lucie gagnait le théâtre, et pour franchir la place, elle aimait retrousser très haut ses jupes, faire admirer leurs dessous propres. Elle abordait au café Jean, portant au bras un rouleau de musique. Elle s'avançait à petits pas, avec des arrêts brefs devant les boutiques, où elle bousculait à dessein les hommes pour soupirer aussitôt de captivantes excuses. Dédaigneusement, elle toisait les femmes, pleine d'un mépris vertueux contre ses collègues de joie, ayant pour la tenue sobre des dames mariées une respectueuse compassion. Elle arrivait ainsi à sa première halte, un grand magasin d'orfèvrerie très éclairé. quoique les objets de la montre lui fussent connus dans leur moindre ciselure, elle s'arrêtait, par contenance, en se rappelant les hommes coudoyés et leurs mines engageantes ou fâchées. Par instant, elle détournait la tête et scrutait la rue. Cependant, reprise quelquefois d'une curiosité, elle restait perdue en une longue observation de l'étalage, oublieuse de son labeur, jusqu'à ce que le contact d'un pardessus masculin ou le frôlement d'une canne lui fait retourner. D'une marche traînante, elle s'approchait à la gare. Là, des trains versaient continuellement sur la place une foule effarée. Et c'était pour Lucie une délicate besogne, deviner la fortune des débarquants, leur disposition à la bien accueillir. Lorsque cette seconde station n'avait point réussi, la fille recommençait en sens inverse, sans répugnance pour ce trajet monotone. Sur la grande place, elle attendait longtemps devant les grilles de la halle, indécise à franchir la chaussée. Enfin, elle pénétrait dans la rue nationale. La double traînée des lampadaires s'étendait à l'infini. Entre eux, les lanternes des voitures se mouvaient jumellement dans un isolement bizarre. Au commencement de la rue, sa tenue hautaine et presque décente persistait. Mais, quand elle était parvenue aux endroits sombres, ses allures brusquement changeaient. Elle se déhanchait, désireuse de prendre une revanche de ses poses austères. Et, lasse enfin d'espérer qu'on viendrait à elle, Lucie Tirache raccrochait. Elle accostait les hommes bien vêtus, en murmurant d'abord quelques propositions d'un air détaché, sans paraître y tenir. Dans la suite, impatientée de sa déveine, elle se faisait pressante et suppliante, avec des vanteries pour sa virtuosité érotique. Au jour de Guignon, 10 heures sonnaient avant qu'elle eût réussi à séduire un mâle. Les rues devenaient désertes, le bruit décroissait, confus. Lucie ne distinguait plus à cette heure qu'un murmure uniforme et vague, coupé par le roulement des voitures attardées. On fermait les boutiques, les cafés par flots se vidaient. Le théâtre, aux entr'actes, dégorgeait la foule des spectateurs, et Lucie, revenue sur la place, faisait alors de longues stations, son cache-poussière entrebâillée afin de paraître plus avenante. Lorsque ses manœuvres étaient restées infructueuses, vers 11 heures, elle allait aux bouffes. La lourde moiteur de l'atmosphère enfumée l'y réchauffait, l'y grisait. Elle devenait très drôle, très hardie, achevait perdre sa morgue de femme chic. Et toute folâtre, elle courait de tables en tables, lançant des calembours. Elle quêtait des cafés, des chartreuses, en s'asseyant au coin des chaises, avec des rires pour les hommes, des frôlements pour leurs moustaches. Presque toujours, après une demi-heure de ce manège, elle sortait au bras d'un monsieur. Sous le cadran illuminé de grands gardes, devant l'enfilade réglementaire des fiacres, on débattait le prix. Le marché conclu, on gagnait rapidement la rue du Bois-Saint-Étienne et l'on montait. Lucie Tirache se livrait ainsi, au premier venu, pour 20 francs. Chapitre 2. D'abord, cette vie nouvelle l'enchanta. Dans ses vadrouilles, elle était très gaie, sans raison, sautait, virait, ravie. Et à sa fenêtre, pendant les longues heures de solitude rêveuse, elle couvait en silence un monologue joyeux. Une idée la satisfaisait fort. Le projet lentement formé se réalisait enfin. Elle faisait expier aux hommes ses misères anciennes. Aujourd'hui, le souvenir de son premier affolement l'amusait. Avait-elle été assez niaise, en arrivant à Lille, de perdre courage, de se croire la victime de quelque guigne mystérieuse? Elle se rappelait les premiers jours passés dans une dèche désespérante, par horreur des mâles. Heureusement que la fringale l'en avait tirée de cette toquade. La persécution, une guigne. Tout cela était des contes de grand-mère. Elle le savait à présent. Sans doute, les malheurs ne lui avaient pas été épargnés, mais elle-même était cause de cette malchance avec sa mollesse et son ignorance de la vie. Comme les hommes avaient lâchement profité de sa sottise. Les salauds. Elle les avait supportés. Pour quelques-uns même, elle avait eu de l'attachement. Plus souvent qu'on l'y repincerait. Georges l'avait-il assommé avec ses réflexions idiotes? Et comme il avait vécu sur sa bourse, pour finir par la planter là, quand elle n'avait plus eu d'argent. L'officier Charles lui apparaissait comme un sale poseur. Il l'avait prise pour en faire parade, vaniteusement. Bien gagné, l'argent qu'elle avait dépensé à sa guise. Tous pareils. Léon ne valait pas mieux que le reste. 6 mois, il l'avait poursuivie. Elle aurait été, sans lui, une brave ouvrière, un tourmenté. Elle se remémorait ensuite l'indigne façon dont ce Léon l'avait abandonnée, parce qu'elle s'était amusée un peu en son absence. Comme si ce n'était pas lui qui l'avait habituée à faire la noce. Tous des exploiteurs de la femme, des maquereaux, quoi. Bon, encore Donard. Celui-là, du moins, n'était pas hypocrite. Mais non, lui aussi était une canaille qui poussait sa femme à de sales actions, une si bonne personne, par nature. Lucie se méprisait encore davantage en songeant que tous ces types qui l'avaient roulé étaient bêtes comme leurs savates, tous plus ou moins rincés par d'autres femmes, des habiles. Oh, mais elle était bien changée. Elle allait leur en faire voir à ces hommes. Ils pourraient claquer de misère s'il leur plaisait, elle ne se retournerait seulement pas. Ils l'avaient dupée, et quand la déveine était venue, nul ne s'était occupé d'elle. Elle allait s'occuper d'eux, elle, et ce serait drôle. En effet, Lucie s'acharnait à cette haine. Elle se faisait payer à l'avance très cher. Tout supplément d'amour devait être rémunéré en surplus. Même, elle les volait. Il lui venait un frais rire à la remembrance du départ quotidien de ses michets, très penauds, sans un sou. Elle s'estimait devenue sérieuse, une vraie femme. Elle savait enfin raisonner, et on ne la reprendrait plus à changer d'avis continuellement, sans motif, comme autrefois. Cependant, au plus fort de ses résolutions, souvent elle s'attendrissait en songeant à Léon, son seul amour vrai. Elle se surprenait à regretter ce premier amant. En somme, c'était encore le meilleur de tous. Celui-là l'aimait pour elle-même, et puis si gentil, si doux. Une fierté la possédait d'avoir été séduite par un homme aussi aimable. Elle se représentait Léon idéalement beau, par une admiration intime du mal qui était parvenu à la conquérir. Il ne l'aurait jamais quittée sans les conseils des amis et des camarades jaloux de leur liaison. Dans l'esprit de la fille, Léon devenait un être adorable. Elle le désirait. Et dévêtant les autres amants de leur qualité, elle en habillait son premier amoureux. La revue des hommes jadis connus recommençait. De nouvelles infamies se retraçaient dans sa mémoire. Ce n'est pas Léon qui aurait fait ceci, cela. Mais ses réflexions servaient encore à affermir ses projets. Elle se jurait qu'elle n'aurait plus ni amour ni Béguin, et formait le plan d'une existence tout emplie par l'idée de l'argent à obtenir. L'argent, ce devait être son seul but. Elle se devinait très courageuse pour acquérir une fortune, prochainement, entrevoyait au terme de ses efforts une vie libre, riche, jouisseuse. Revenue à Saint-Quentin, elle stupéfierait de son luxe les anciennes camarades d'atelier, serait locataire, dans la rue d'Ille, d'un appartement somptueux. L'idée de cet appartement l'obsédait. Elle y voulait un balcon d'où elle pourrait regarder librement les promeneurs. Comme les amants d'autrefois, si dédaigneux, rageraient en la voyant traîner aux Champs-Élysées, des robes de soie, mener en laisse un lévrier. Et puis, elle serait vertueuse et chaste. Elle aurait sa chaise à la basilique. Elle ferait l'aumône, splendeur que couronnerait un mariage avec quelque jeune homme vigoureux et beau. Toutes ces songeries se modifiaient, et un horizon si bourgeois lui semblait mesquin. Ce qu'il lui fallait alors, c'était Paris, la noce à outrance, la vie élégante et fastueuse. Elle pensait aux délices que devait renfermer cette ville idéale, dont les commis voyageurs parlaient avec un enthousiasme vague. À Paris, son luxe la ferait bientôt remarquer. Toutes les avances seraient éconduites impitoyablement, jusqu'au jour où s'offrirait à elle l'amant attendu, capable de se donner tout entier, de lui procurer toutes les richesses, de vivre à ses pieds avec une adorante soumission. Bien d'autres idées lui venaient encore, différentes, contraires, souvent toutes à la fois. Mais toujours dans ses rêves, elle se voyait au bras d'un homme, et le bonheur lui paraissait reposer sur l'affection d'un garçon jeune et fort, qui saurait avoir pour elle l'exquise tendresse de Léon, avec des vigueurs bien autrement voluptueuses. C'est que Lucie avait gardé le furieux besoin des plaisirs érotiques. La nuit, elle collait tout à coup ses lèvres brûlantes au corps du Miché, soupirante. Elle s'imaginait être ardente par calcul pour forcer les hommes à la venir retrouver. Mais, au fond, elle adorait plus que jamais les caresses lascives et s'ingéniait à ressentir des spasmes encore inaperçus. Cette poursuite du plaisir se traduisait dans ses rêveries par la réminiscence de livres licencieux, ou par le regret de n'avoir pas été l'esclave de cette flagrance amoureuse lorsque Léon était avec elle. Et la vision de ses premières amours se mêlait à ses vœux sensuels, les fardait d'un sentimentalisme qui enthousiasmait Lucie. La nuit, elle arrachait subitement de sa torpeur l'homme couché à son flanc pour obtenir de lui quelques raffinements de luxure. Ensuite, l'hystérie s'éteignait. La réalité s'imposait vite à la fille lorsque le monsieur se levait, avachi, demandant « Dis donc, où est la serviette ?» Par un revirement soudain, elle se dégoûtait alors des plaisirs charnels. Elle en venait à estimer une souillure le spasme érotique. Elle regrettait n'avoir point, après l'amour assouvi, des éphèbes spirituels et beaux, l'entretenant avec douceur de la passion véritable. Une aspiration à une liaison très pure affluait, mais il lui paraissait qu'une telle liaison ne saurait être obtenue sans dépense d'argent. Ne fallait-il pas pour cela avoir des allures élégantes et honnêtes, attendre surtout les avances? C'est ainsi que les idées les plus contraires avaient une conclusion commune, raccrocher les mâles et leur enlever l'argent. Et, avec la fixité d'un sérieux devoir, Lucie accomplissait la tâche quotidienne. Elle se donnait au premier venu, chaque soir, pour un louis payé d'avance. Chapitre 3. Vint l'hiver, un hiver froid, très sec. Cependant, Lucie recommençait tous les jours sa lente promenade, satisfaite de cette saison qui rendait plus douce au Miché la perspective d'un lit bien chaud. Mais l'arrivée hâtive de la nuit contraignait la fille à sortir plus tôt et allongeait la durée de ses vadrouilles. Vers 7 heures, lorsque déjà nul espoir d'un dîner offert ne lui restait, elle s'arrêtait, prise de faim, devant un magasin d'épicerie, au coin des rues Esquermoises et Nationales. C'était une boutique assez vaste, très éclairée, animée par un continuel défilé d'acheteurs. Elle aimait regarder, friande, l'intérieur du magasin, les bouteilles alignées, les tiroirs jaunes échafaudés et décorés d'étiquettes. La devanture surtout l'intéressait. Des deux côtés, près la porte, des caisses renversées s'allongeaient, couverte d'oranges, de fruits secs, de pruneaux, et sous une vitrine se tassaient les vermicelles, les macaronis, avec dessus les prix en chiffres énormes. Lucie contemplait ses mangeailles, sans perdre de vue les messieurs encombrant le trottoir. Une grande envie lui venait de se repaître. Devant le magasin, un garçon en longue blouse écrue courait complaisamment d'un client à l'autre, en faisant l'éloge des denrées. Lorsque Lucie se décidait à l'achat de mendiant, toujours ses yeux se rencontraient aux yeux bêtes du vendeur, obséquieux et souriant. Peu à peu, elle s'habitua à trouver au milieu des comestibles cette face polie et rosée, aux lèvres entr'ouvertes, au front bas caloté de boucles blondes, que séparait une raie droite. Bientôt même, elle crut voir à son empressement que cet homme lui voulait devenir familier. Sa fierté de femme chère, une vanité longuement acquise dans les heures de solitude, la rendait aussitôt fâchée contre cet audacieux. Elle se garda cependant de fréquenter une autre épicerie. Ce manège l'amusait. Mais de ce jour, elle s'efforça à bafouer cet adorateur, en prenant, dès qu'elle l'apercevait, un air dédaigneux. Ce fut contre le malheureux une taquinerie constante, presque une vengeance. Elle aimait à l'impatienter de ses questions multiples, le faire courir à l'intérieur du magasin. Elle lui donnait de l'or pour l'obliger à aller changer à la caisse, et à son retour, d'impérieuses réclamations l'accueillaient. « Demandez donc de la petite monnaie au lieu de ces pièces de 5 francs qui éreintent ma bourse. »« Mais, madame, il n'y en a plus. Dépêchez-vous ou j'irai me plaindre. » Le garçon devait se soumettre. Ce fut bien autre chose lorsque Lucie eut appris par un de ses collègues qu'il avait parié coucher avec elle avant 1 mois. La fille fut froissée. De subites honnêtetés s'indignaient en elle. Volontiers, elle avançait l'heure de sa dînette pour maltraiter l'amoureux téméraire. Ses songeries avaient pris un objet fixe, humilier cet homme. L'épicier accapara ses méditations. Longtemps, cette rigueur dura. Mais un jour, Lucie s'étant montrée trop méprisante, le garçon devint très pâle. La fille fut touchée. Ses agaceries, au premier temps très plaisantes, l'ennuyaient déjà, et elle se sentit brusquement apitoyée, repentante, prise pour l'infortunée d'une grande sympathie. « Allons, allons, ne vous faites pas tant de mauvais sang. Au fond, vous savez, moi je suis une bonne fille. Allons, voyons, je ne vous tourmenterai plus. Seulement, il faut que vous soyez convenable. » L'indignation avait disparu. En Lucie persistait seule une compassion pour sa victime. Elle se promit réparer ses torts par d'amicales paroles. Et vite, entre eux, s'établit une familiarité bavarde. Souvent, la fille stationnait pour communiquer au vendeur des réflexions complaisantes sur le temps ou les denrées exposées. Dans la suite, ils se confièrent leur tracas. Lui raconta les ennuyeuses fatigues du métier. Elle narra la brutalité des hommes. Elle l'appelait par son prénom, Zéphyr. Elle se décida même à trouver passable ses gros yeux bleus. Il avait une blouse toujours très propre, un grand col ouvert, une cravate verte, une bague au doigt. Cependant, Lucie ne découvrait en elle nul amour pour ce mâle. Malgré des instances réitérées et suppliantes, elle ne céda point. Les galanteries de Zéphyr la trouvaient très froide, fâchée. L'offre d'un louis ne put la déterminer. Elle avait la conviction d'une supériorité sociale, et, s'intéressant toujours à Zéphyr, elle aurait cru déchoir en acceptant ses propositions. Chaque jour, vers midi, elle le rencontrait dans un cabaret de la rue des Suaires où il mangeait, et, pendant qu'elle faisait pomper la bière dans son broc d'étain, il lui contait des histoires qu'elle trouvait drôles. Chapitre 4. Un matin de mars, Lucie Tirache contait, dans ce cabaret, les péripéties d'une atroce agression qu'elle avait subie la nuit précédente. À prolonger son récit, à user sa douleur en la vivant sans cesse par d'épouvantables évocations, elle ressentait un intime soulagement. Et, comme Zéphyr venait d'entrer, elle reprit sa narration dans une avidité de rééditer ses souffrances. Deux hommes distingués et riches par l'apparence l'avaient accompagnée chez elle, puis l'avait insultée, battue, et elle s'était défendue courageusement. Devant les clients matineux, ouvriers vêtus de velours brun, commères en jupe sale, fillettes en long sarrau noir à la natte frétillante, Lucie se faisait très brave, se dépeignait une femme forte, ayant su résister vigoureusement à leur brutalité. « Je leur en ai lâché de ces injures, j'en pouvais plus, quoi. Et puis, ils n'avaient qu'à s'en aller. Ah, bien, oui. Quand ils m'ont vu en rage comme ça, ils ont pris les chaises, ma toilette, mon armoire à glace. Ils m'ont tout fichu par terre, avec des coups de poing, des coups de pied. Mes pauvres meubles, qu'ils étaient encore si beaux, que j'aurais voulu... » Sa phrase s'acheva en un long gémissement. La fille, penchée sur l'épaule de Zéphyr, pleurait verse, tachant son peignoir rouge, trouvant canaille, sans oser le dire, l'indifférence des auditeurs, qui l'un après l'autre s'en allaient, calant d'un coup d'épaule leur paquet d'outils sur l'omoplate, modérant de la main le balancement de la musette pendue au coude. Et tous, en partant, lançaient des consolations. « Voyons, il faut vous calmer. Avec une mine comme la vôtre, vous en achèterez bientôt des autres de meubles. « Moi, je serai de vous, j'aurai un revolver. » Lucie sanglotait. Mais une femme ayant insinué qu'elle avait eu tort de recevoir deux hommes à la fois, elle se fâcha, oubliant aussitôt son chagrin. « Tiens, si vous croyez qu'on fait ce qu'on veut dans cette saloperie de métier-là... »«
Fallait pas le prendre, ma fille. » »«
J'aurais bien voulu vous y voir. » »«
C'est égal, si t'étais restée honnête, ça ne te serait pas arrivé. » »«
Honnête ? Et toi, tu l'es honnête ? » ?»«
Un peu plus que toi, au moins. » »«
Eh, va donc, grand chameau, c'est parce que t'as pas de physique. Bien sûr que tu ne trouverais pas deux hommes pour vouloir monter chez toi. » »«
Du calme, hein, mamselle du trottoir. » »«
Attends un peu, toi. »
Lucie fut retenue par Zéphyr. Contente d'avoir un prétexte pour ne se pas colleter, elle se débattait, menaçait violemment son adversaire, qui battait en retraite, très digne. Puis elle se laissa entraîner dans la rue. Lentement, ils marchaient côte à côte. Une grande animation grouillait. Des camions roulaient, bruyants, éclaboussaient la file des passants affairés qui s'accrochaient aux paniers encombrants traînés aux bras des repasseuses. Cette foule s'agitait impitoyablement à côté de Lucie qui s'exaspérait.
« En voilà une putain, une femme à 100 sous, une paillasse à soldats. »
Zéphyr, très calme, raisonnait.
Pour sûr, c'était une rosse. Mais Lucie avait déjà bien assez de malheur comme ça sans s'occuper encore d'une pareille grue.
Cette allusion rappela l'aventure de la nuit, et la douleur de la fille, un instant distraite, la ressaisit. Ils étaient arrivés au coin de la rue du Bois-Saint-Étienne. Zéphyr prodiguait des paroles consolantes, semblait très content d'être initié aux petites affaires de Lucie. Elle, toujours pleurante, énumérait les dégâts, s'attardait à une foule de détails, heureuse de la pitié qu'elle inspirait. Instinctivement, elle regardait la clé, comme pour une prière.
« Moi non plus, allez, je n'ai jamais eu de chance !»
conclut Zéphyr. Il raconta longuement son renvoi de l'épicerie, où il avait été victime d'ignobles jalousies. Lucie fut intéressée par l'histoire. Elle compatit et demanda d'exactes explications. Mais, soudain, la vue de sa fenêtre ressuscita ses récriminations. Et tandis que l'homme se complaisait à décrire sa misère, tandis qu'il narrait les intrigues de sa patronne, de ses camarades, s'entraînait à les insulter, leur jurant des vengeances, la fille de nouveau sanglotait, à peine attentive. Elle en vint à trouver ennuyeuses les doléances du garçon. Cette épopée d'un autre malheur graduellement l'importunait. Elle n'écouta plus, agacée. Le temps était couvert, des nuages gris se mouvaient lentement. L'atmosphère lourde, chargée de pluie, accrochait une brume laiteuse aux angles des maisons. Et le roulement monotone des voitures attrista encore Lucie, honteuse de pleurer dans la rue. Espérant aussi que le spectacle des dégâts apitoierait davantage son compagnon, elle l'invita à visiter l'appartement. En entrant, la dévastation de la pièce navra. L'armoire à glace renversée gisait à terre, la corniche au plancher. Partout des paillettes de verre doublées de tin scintillaient. La cuvette était sur le tapis en morceaux. L'eau s'était épandue du pot brisé, noircissant les rosaces. Au milieu de la pièce s'étalait, arrachée de son cadre, lacérée, une gentille lithographie. Deux amoureux s'embrassant sur une escarpolette. Zéphyr allait d'un meuble à l'autre. Du plat de la main, à grands coups, il rajustait les montures des chaises. Il releva l'armoire et ramassa les débris de la glace. Cependant, Lucie s'était vautrée sur le canapé, la face tournée au mur, sans souci du désordre de sa toilette, car le peignoir dégrafé opprimait moins sa poitrine soulevée par le halètement des sanglots. Elle était prise d'une rage furieuse contre ces inconnus, exempts maintenant de sa juste vengeance. Elle se comprit victime à jamais de la funeste influence des hommes. Dans une inconsciente sollicitation, elle avait pris les mains de Zéphyr et les serrait. Lui répétait sans cesse « Quelle canaille! Quelle canaille! Oh, tous des cochons, je vous dis, des voyous qui se foutent des femmes parce qu'ils sont les plus forts. Ainsi, croyez-vous que c'est pas ignoble ce qu'ils m'ont fait? Et puis, toujours ça a été la même chose, et il n'y a pas moyen que j'en sorte. Autrefois, j'aurais gagné ma vie, mais maintenant je ne sais même plus faire une reprise, et c'est encore leur faute. Oh, mais c'est bien fini, j'y renonce, j'aimerais mieux me jeter à l'eau que de coucher encore avec un. Ils se valent tous. »
« Et moi ?» insinua Zéphyr. « Croyez-vous que je ne suis pas un brave garçon qui vous aime bien ?»
Tout bas, tendrement, il lui fit l'aveu de son affection. Toujours il l'avait aimée. C'est pour cela qu'il était si malheureux quand elle le méprisait. Oh, s'il était d'elle, comme il quitterait cette vie-là, comme il enverrait promener ces sales bourgeois qui se croient tout permis à cause de leur argent. On voit bien que vous ne connaissez pas les hommes de votre rang, qui n'ont pas des masses d'argent, mais aussi qui ne sont pas fiers, pas méchants. »
D'abord, dans sa détresse, Lucie Tirache avait oublié le sexe de son ami. À l'entendre parler d'amour, elle ressentit une joie, décidée à repousser toutes ses prières, à le faire payer pour les autres. Mais, comme elle écoutait attentivement, étonnée par ce genre de supplication soumise qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps, elle admira la justesse de ses réflexions. Elle se rappela avoir eu déjà les mêmes idées. Peu à peu, sa douleur disparaissait. À la tension de ses nerfs succédait un amollissement. Son oreille distraite trouvait un plaisir à recueillir de tendres paroles. Lui, toujours très doux, avec des inflexions chantantes, poursuivait l'aveu de sa passion. Il louait les manières de la fille, la bonté que marquait son visage et qui avait dû être la cause de ses infortunes. Lucie regardait le mur sans voir. Machinalement, elle répétait tout bas les phrases de l'homme qui lui semblaient harmonieuses. L'émotion de la nuit, sa rage durant des heures, l'avait brisée. Elle ne pensait plus, impuissante à former une idée. Vainement, elle essayait de résister par le raisonnement aux tentatives du garçon. Bientôt, elle retombait dans une torpeur avachie et se laissait bercer par les discours de Zéphyr, qui acquérait en son esprit une croissante vigueur. Puis, tout à ses réflexions, elle n'écouta plus. Elle songeait à la possibilité d'une vie honnête et calme, qu'elle imaginait charmante. Seulement des lambeaux de phrases lui arrivaient, que Zéphyr lançait plus haut. Maintenant, il dépeignait la félicité d'un ménage à deux. «
C'est pas moi qui vous mépriserai. Il faut bien vivre, n'est-ce pas? Je ne vous reprocherai jamais rien. Je vous aime trop pour ça. Il n'y aurait jamais de querelle. On vivrait si tranquille qu'on nous prendrait pour des gens mariés. Les dimanches, on irait se promener bras dessus, bras dessous. La semaine, tous les matins, on se rendrait ensemble au travail. Et puis, elle pouvait toujours essayer, ça n'engageait à rien. »
Lucie se sentait enlacée, pressée amoureusement. une voix chevrotante, bien humble, répétait « Eh bien, dites, voulez-vous ? Dites, voulez-vous ? »
Elle, toute espérante, enchantée de cet avenir naïvement vertueux et honorable, confiante en une existence heureuse et tranquille, qui l'abriterait des méprises et des brutalités, se jeta dans les bras de Zéphyr, brusquement, par reconnaissance pour ses promesses d'amour, les seules entendues ainsi formulées depuis Léon.